Merci à tout le monde de vous être déplacé pour la conférence. On est très heureux de vous voir en aussi grand nombre. Je vais vous présenter la conférencière d'aujourd'hui. Donc, on reçoit Catherine Cordoc, qui est professeure associée à l'Université Carleton, qui va nous présenter une conférence qui a pour titre « Migrants sans dérive, la pertinence du concept d'écriture migrante ». Catherine Cordoc est spécialiste des littératures québécoises et francophones contemporaines, de l'écriture migrante, des écritures transculturelles et du plurilinguisme. Et elle s'intéresse aussi à la Tour de Babel dans la littérature contemporaine. Elle a publié d'ailleurs un livre, « Tour et détour, le mythe de Babel dans la littérature contemporaine » aux presses de l'Université d'Ottawa en 2012. Et je vous invite à assister à notre prochaine conférence, jeudi le 25 avril 2013. On va recevoir Madeleine Stratford de l'Université du Québec en Outaouais qui nous parlera de la poésie contemporaine et de l'expérience extrême de sa traduction. Donc, je répète le titre de la conférence d'aujourd'hui avant de céder la parole à Catherine Cordoc, « Migrants sans dérive, la pertinence du concept d'écriture migrante ».
Merci bien. Je tiens à vous remercier de cette invitation. Je suis très heureuse de parler dans un cadre... Ah, je vais parler plus fort. OK. Non, mais le micro ne marche pas dans la salle. Non, c'est ça? Le micro ne marche pas dans la salle? C'est beau. Ouais, OK, bon. Alors, je tiens à remercier les organisateurs, Brigitte Fonty et Pierre-Luc Landry, de cette invitation, de partager avec vous un peu quelques réflexions des choses sur lesquelles je travaille depuis déjà plusieurs années. Et je vous remercie à tous et à toutes de venir, d'être venus ce soir. Je sais que c'est une période de l'année très occupée pour les étudiants surtout. Alors, je vous remercie d'être là ce soir. Il y a quelque chose d'un peu redondant dans le titre de ma conférence, « Migrants sans dérive ». Si l'on se tourne vers la définition que proposait Pierre Neveu en 1988 de l'écriture migrante, une définition qui privilégie la dimension esthétique de l'écriture migrante, il suggérait qu'il faille, et je cite, « insister sur le mouvement, la dérive, les croisements multiples que suscite l'expérience de l'exil ». Fin de citation. L'écriture migrante est déjà donc en dérive en quelque sorte. Alors, comment parler d'une migrance en dérive sans décidément tourner en rond? Vous vous en doutez sans doute, j'ai bien mes raisons pour ce titre. Mon propos aujourd'hui sera en partie de rappeler l'élément esthétique qui relève de la dérive, du mouvement, des croisements qui caractérisent l'écriture migrante, mais aussi de dépasser le concept d'écriture migrante en tant que telle. Car ces traits ne sont pas exclusifs à l'écriture migrante, comme nous le verrons un peu plus tard, et c'est ce qui me pousse à me demander si l'écriture migrante continue à être un concept pertinent pour l'analyse de la littérature québécoise contemporaine. Il y aurait lieu de songer davantage au concept de transculture ou encore d'écriture transnationale, ce qui nous permettrait d'envisager la littérature québécoise dans un cadre quelque peu diffracté. Est-ce que vous m'entendez? Pas très bien? OK, je vais essayer de parler plus fort. Avant de parler de quelques romans contemporains, je ferai un bref survol du développement de l'écriture migrante ainsi que de quelques positions critiques. Et je veux bien souligner, ce sera un survol très bref. Je ne veux pas vous assommer avec toutes sortes de positions trop théoriques. On pourra certainement en parler plus tard ou je peux vous donner quelques références, mais je ne veux pas quand même rentrer trop là-dedans à ce stade-ci. Les romans dont je parlerai sont « Rue » de Kim Thuy, « Je suis un écrivain japonais » de Daniela Ferrière, « Nikolski » de Nicolas Dickner et finalement « Les larmes de Saint-Laurent » de Dominique Fortier. Les deux premiers écrivains ont connu l'immigration et l'exil et pourraient être qualifiés, et en fait le sont, d'écrivains migrants, alors que les deux autres n'ont pas vécu, à ce que nous le sachions, ce type d'expérience. Mais c'est justement en partie l'aspect biographique de l'écrivain que nous voudrions mettre à l'écart en proposant une remise en question du concept d'écriture migrante. On attribue souvent à Pierre Neveu l'origine de l'expression « écriture migrante » et il n'y a aucun doute que c'est bien lui qui l'est propulsé dans les milieux littéraires et universitaires depuis la fin des années 80. Cependant, il faudrait rappeler que Neveu lui-même reconnaît la paternité de l'expression, parue d'abord dans la revue Vice Versa dans les années 86-87, à Robert Bérouet-Auriol, un linguiste et poète québécois d'origine haïtienne. C'est un peu plus tard, suite à de longues conversations autour de la question de la production littéraire d'écrivains venus d'ailleurs, que Bérouet-Auriol et Robert Fournier, qui est d'ailleurs un de mes collègues, ont publié un article sur l'émergence des écritures migrantes et métisses, un texte qu'ils ont publié d'abord dans la revue franco-ontarienne Littéréalité en 1991 et par la suite dans la revue américaine Quebec Studies en 1992. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'avant Pierre Neveu, il y avait les conférences, les communications de Berouet-Auriol. Or, même si l'on pourrait dire que l'écriture migrante existe au Québec depuis le début du 20e siècle ou même avant, ce n'est cependant que dans les années 80 que le concept s'est développé de manière délibérée. Comme Berouet-Auriol et Fournier le signalaient, c'est à peu près à cette époque que l'immigration se diversifie et que les immigrants ne se ressortent plus exclusivement de pays européens. Par ailleurs, Sherry Simon et David Leahy notent que la publication du roman « La Québécoite » de Régine Robin en 1983 et l'apparition la même année de la revue « Vice Versa », une revue publiée en trois langues, en français, en anglais et en italien, et une revue qui se définit comme étant transculturelle, ces deux événements ont marqué la conscientisation, du moins auprès de la critique littéraire et culturelle québécoise, de l'écriture migrante. On suivit bien sûr les études incontournables de Pierre Neveu, L'écologie du réel, mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine en 1988 et Voleur de parcours, identité et cosmopolitisme dans la littérature québécoise contemporaine de Simon Harel, paru en 89. Et depuis, on ne peut le nier, l'écriture migrante a interpellé les étudiants et les chercheurs. Cela se voit au nombre d'articles, de communications, de collectifs, de thèses, de mémoires qui traitent de ce corpus et de ses auteurs phares. Régine Robin, Denis Laferrière, Marco Micone, Émile Olivier, Naïm Catan, Abla Faroud, Sergio Coquis, pour ne nommer que ceux-là. Il y a aussi, bien sûr, les chercheurs comme Clément Moisan et Renate Hildebrand, de Michel Biron, François Dumont et Elisabeth Nardou-Lafarge, qui ont publié l'Histoire littéraire du Québec, qui situe l'écriture migrante dans l'histoire littéraire du Québec. Ce qui mérite d'être rappelé, c'est que les études de Neveu et d'Harel portent sur la littérature québécoise contemporaine en y intégrant des sections ou des chapitres sur l'écriture migrante, ce qui a pour effet implicitement de l'intégrer au corpus québécois. Il n'y a donc là aucune raison de craindre des effets de ghettoisation de l'écriture produite par des écrivains venus d'ailleurs. Pourtant, nombreux sont les écrivains qui se sont vus catégorisés sous l'étiquette d'écriture migrante, qui dénoncent leur enfermement dans cette catégorie qui semble être séparée par un gouffre de l'écriture québécoise à part entière. Abla Faroud, une écrivaine d'origine libanaise, mais qui est venue au Québec à l'âge de 6 ans, donc qui a grandi au Québec, explique, je cite, « L'émigration-immigration, qui est à la base de l'écriture dite migrante, n'est pas une culture dont on se nourrit, mais un passage, et je souligne bien un passage, qu'il faut vivre jusqu'à l'épuisement. La parole de l'immigrant est une étape pour la collectivité, et une étape dans la vie de l'écrivain immigrant, si toutefois il ne se laisse pas enfermer dans cette étiquette. J'étais loin d'imaginer que cette étiquette qui m'a servi au départ allait très vite devenir réductrice à mes yeux. » Fin de citation. Par ailleurs, toujours selon Faroud, toute écriture est un trajet vers l'inconnu, donc toute écriture est migrante. L'écriture migrante a tout de même causé quelques vagues. Pensons notamment à l'affaire Larue, qui a éclaté en 1997, lorsque Monique Larue publiait une plaquette intitulée « Arpenteur et navigateur », dans laquelle elle mettait en scène une conversation imaginaire entre deux auteurs. L'un d'eux déplore le fait que les écrivains immigrants soient en train de rafler tous les prix littéraires du Québec, alors que ce qu'ils écrivent, je cite, n'a rien à voir avec ce qu'on a toujours appelé la littérature québécoise. » Fin de citation. Cela a provoqué une dispute médiatisée entre Monique Larue et Gila B. Stroka, directrice de la Tribune juive et aussi de la revue La Parole Métèque, qui était choquée par des propos qu'elle jugeait xénophobes. Et ce dialogue entre les deux intervenantes a déclenché toute une série de répliques dans les journaux montréalais pendant plusieurs mois, avant finalement qu'il y ait un moyen pour les deux femmes de se réconcilier. Et il y avait bien sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais des échanges d'articles entre ceux qui appuyaient la position de Mme Larue et ceux qui appuyaient la position de Mme Skroka. Et ça a fait en fait tout un débat autour de l'écriture migrante. Est-ce que l'écriture migrante fait vraiment partie de la littérature québécoise à part entière, tout autant que l'écriture d'un Michel Tremblay ou d'un Régent du Charme, à titre d'exemple? En fait, à mon avis, et je ne suis pas la seule, bien sûr, en adoptant une perspective un peu plus longue sur la question, je pense qu'il est indéniable que l'écriture migrante fait partie de la littérature québécoise. Il y a par contre deux choses qui me gênent un peu par rapport à cette question. D'abord, il y a une tendance à catégoriser trop facilement les œuvres d'auteurs qui ont été immigrants comme étant nécessairement migrantes, tout en mettant des œillères en ce qui concerne leurs textes ou les éléments de leurs textes qui ne représentent pas la problématique de l'immigration, de l'exil, de l'ailleurs et de l'ici. Le risque demeure donc de maintenir les écrivains et leurs textes dans le cadre de l'écriture migrante qui devient effectivement une sorte de ghetto, peu importe ce qu'ils écrivent, peu importe qu'ils aient immigré il y a 40 ans ou lorsqu'ils n'avaient que 5 ans. D'autre part, on retrouve des éléments de la migrance littéraire, tels qu'une écriture de la dérive, du mouvement, des croisements, dans des œuvres qui ne seraient pas catégorisées de migrantes par la critique. Et pourtant, il y aurait lieu de lire, d'étudier, de rapprocher ces œuvres avec certains textes dits migrants. Il me semble donc, à l'instar des commentaires d'Abla Faroud et bien d'autres, que l'écriture migrante en tant que cadre d'analyse a eu un rôle à jouer, dans le sens où il a mis à l'avant-scène ses auteurs et leurs textes, mais qu'il ne faut pas s'y cloisonner non plus, puisqu'il s'agit d'une étape, que ce soit dans le parcours littéraire d'un auteur ou dans le parcours d'une histoire littéraire nationale. Venons-en à présent aux textes littéraires. Je commencerai avec « Rue de Kim Thuy », paru en 2010, Et par ailleurs, je crois que son nouveau roman qui s'appelle « Man » ou je ne suis pas sûre comment le prononcer, sort en ce moment. La version électronique est sortie et le livre en papier sort, je crois, cette semaine. Je ne l'ai pas vu sur les étagères encore, mais... D'accord. Alors, il est sorti. Alors, voilà. Alors, Kim Thuy, un livre inspiré du vécu de l'auteur qui est arrivé au Québec en 1979, à l'âge de 10 ans, en provenance du Vietnam et en passant par un camp de réfugiés en Malaisie, la narratrice y évoque, dans une prose très poétique et elliptique, ses souvenirs d'enfance à Saigon, dans un milieu bourgeois et éduqué, ainsi que son arrivée au Québec en plein milieu de l'hiver. La gentillesse et la générosité, même si parfois quelque peu maladroite, des gens de Granby l'ont marqué, et elle se souvient aussi de ses premières amitiés, de ses enseignantes, et dans son intégration lente, parfois frustrante et aliénante, à la société québécoise. Tissé à ce récit se trouvent aussi des détails à propos de la vie adulte de la narratrice, la rencontre avec celui qui deviendra son mari et le père de ses deux fils, l'autisme de l'un de ses fils, et son séjour de 3 ans au Vietnam. Un récit donc qui oscille entre l'Orient et l'Occident, entre le Vietnam et le Canada, entre les années 70 et le début du 21e siècle. Son retour au Vietnam est révélateur en soulignant l'écart qui s'est creusé entre les origines de la narratrice et son identité de femme adulte vivant à Montréal et travaillant dans un milieu professionnel. Lors d'un repas dans un restaurant école de Hanoï, le serveur est étonné de voir qu'elle parle en vietnamien. Je cite « Je croyais au début qu'il ne saisissait pas mon accent du sud, mais à la fin du repas, il m'a dit candidement que j'étais trop grosse pour être une vietnamienne. » Fin de citation. Elle se fait aussi traiter de prostituée quand on lui demande combien elle est payée en tant qu'escorte de son mari blanc. C'est en fait son étrangeté, son décalage par rapport à la société vietnamienne qui font ressortir le fait qu'elle a effectivement changé de pays, de langue, de culture, bref, d'identité. Elle affirme, et je cite encore une fois, que le jeune serveur m'a rappelé que je ne pouvais pas tout avoir, que je n'avais plus le droit de me proclamer vietnamienne parce que j'avais perdu leur fragilité, leur incertitude, leur peur et il avait raison de me reprendre. » Fin de citation. Et pourtant, d'un autre côté, son patron québécois lui donne un article découpé du journal qui lui rappelait que, je cite, « la nation québécoise était caucasienne, que mes yeux bridés me classaient automatiquement dans une catégorie à part, même si le Québec m'avait donné mon rêve américain, même s'il m'avait bercé pendant 30 ans. » Bref, c'est l'entre-deux pour elle, mais un entre-deux qu'elle décide d'embrasser plutôt que de le lutter. Le titre de l'œuvre est plutôt bien choisi, en fait, pour illustrer cette appartenance partagée entre deux cultures, entre deux langues, puisque « rue » a un sens en français et en vietnamien. En français, c'est un petit ruisseau et au sens figuré, un écoulement de larmes, de sang, d'argent, alors qu'en vietnamien, il s'agit d'une berceuse. Somme toute, un livre que l'on pourrait très bien qualifier de migrant. Et je ne m'opposerai pas à ce qu'on le caractérise ainsi, qu'on le lise dans un cours sur l'écriture migrante, par exemple. Mais il faut par contre aussi pouvoir ouvrir la possibilité de lire ce roman en parallèle avec d'autres œuvres, migrantes ou pas. Ce qui nous mène à notre deuxième texte, « Je suis un écrivain japonais » de Dany Laferrière. Auteur prolifique, dont les œuvres font des remous dès la parution de son premier roman, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », publié en 1985, Dany Laferrière a publié une vingtaine de livres, romans, livres pour enfants, mémoires, scénarios, et en 2009, il se voit récompensé avec le prix Médicis pour « L'énigme du retour ». C'est l'année avant, en 2008, qu'il publie le roman qui nous intéresse aujourd'hui, « Je suis un écrivain japonais », roman qui, à première vue, paraît plutôt léger, étant donné que l'intrigue tourne entièrement autour du titre que l'écrivain narrateur a donné à son prochain roman qu'il a promis à son éditeur. Dans le cadre du récit, le roman n'est pas encore écrit. Le narrateur vient de trouver son idée et il réfléchit à comment il va pouvoir mener à bien son projet. À la fin du roman que nous lisons, le narrateur, lui, n'a pas encore écrit son roman. Bref, ce que nous lisons, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un roman en devenir, un roman qui n'existe pas encore. Si Laferrière a exploré les questions liées à son immigration en provenance d'Haïti à Montréal dans plusieurs de ses autres livres, il est clair que dans celui-ci, il ne s'agit plus d'immigration. En fait, ce narrateur, qui est peut-être Laferrière ou ne l'est pas vraiment, c'est un des traits caractéristiques en fait des œuvres de Laferrière, c'est l'ambiguïté du narrateur et les ressemblances entre lui et son créateur. Ce narrateur se pose bien la question pour chercher à savoir ce qu'est un écrivain japonais. Je cite. Est-ce quelqu'un qui vit et écrit au Japon? Ou quelqu'un né au Japon qui écrit malgré tout? Ou quelqu'un qui n'est pas né au Japon, ni ne connaît la langue, mais décide de but en blanc de devenir un écrivain japonais. C'est mon cas. Un peu plus loin, le narrateur s'avoue être étonné, et là je cite, et c'est un peu une longue citation, mais je pense que vous suivrez. Le narrateur s'avoue être étonné de constater l'attention qu'on accorde à l'origine de l'écrivain. Car pour moi, Mishima était mon voisin. Je rapatriais sans y prendre garde tous les écrivains que je lisais à l'époque. Tous, Flaubert, Goethe, Whitman, Shakespeare, Lope de Vega, Cervantes, Kipling, Senghor, Césaire, Roumain, Amado, Diderot, tous vivaient dans le même village que moi. Sinon, que faisaient-ils dans ma chambre? Quand des années plus tard, je suis devenue moi-même écrivain, qu'on me fit la question, êtes-vous un écrivain haïtien, caribéen ou francophone? Je répondis que je prenais la nationalité de mon lecteur, ce qui veut dire que quand un Japonais me lit, je deviens immédiatement un écrivain japonais. Fin de citation. Il est clair qu'il y a en fait une forme de migrance dans ce roman, mais il ne s'agit pas du phénomène d'immigration dans le sens où on l'entend habituellement. Laferrière évoque plutôt les migrations qui relèvent de l'imaginaire, des écrivains, des artistes en général, et de leurs complices, les lecteurs et leur public. Cela rappelle les propos de Farhoud qui affirmait que l'écriture, la vraie, c'est une forme de migration. La Ferrière, lui, le montre de manière frappante, que l'on ne peut ignorer. En effet, si l'intrigue du roman se situe à Montréal, le narrateur parvient néanmoins à fréquenter une chanteuse populaire nommée Midori et son entourage de jeunes femmes branchées, de jeunes femmes japonaises branchées. Il s'éprend en outre de la poésie de Basho, poète japonais du XVIIe siècle, connu ici en Occident, surtout comme étant le maître du haïku, qu'il lit dans le métro. Il fait la rencontre aussi du vice-consul de l'ambassade du Japon, qui veut être lui aussi un écrivain japonais peut-être. Les références culturelles dans ce roman ne se limitent pas à celles provenant du Japon non plus. Björk, la chanteuse islandaise, conduite presque mondialement, est en tournée à Montréal et passionnée pour l'art vaudou, elle négocie des changements à son horaire de tournée et demande au musée à Montréal de prolonger l'exposition d'une journée afin qu'elle puisse y assister et y rencontrer des artistes haïtiens. Ce texte s'écrit donc dans l'esprit d'une conscience mondialisée de l'expression culturelle et pourtant reste bien ancré à Montréal. La Ferrière provoque le lecteur à se poser des questions importantes à propos de l'appartenance nationale, surtout en ce qui a trait à la littérature et plus généralement à la culture. Le narrateur s'explique, et je le cite, « Né dans la Caraïbe, je deviens automatiquement un écrivain caribéen. Le libraire, la bibliothèque et l'université se sont dépêchés de m'épingler ainsi. Être un écrivain et un caribéen ne fait pas de moi forcément un écrivain caribéen. Pourquoi veut-on toujours mélanger les choses ?» Fin de citation. Le narrateur, voire La Ferrière lui-même, refuse les catégorisations qui sont imposées sur son œuvre et sur lui-même par les institutions littéraires et culturelles, comme les nôtres, qui veulent à tout prix caser les artistes. Pour lui, il n'y a pas de frontière nationale quand il s'agit de littérature. Dans les deux derniers textes que j'évoquerai, il s'agit encore du brouillage de frontières, de passages, même si c'est de façon un peu moins criante que dans le roman de La Ferrière. L'importance de mettre en parallèle les romans de Nicolas Dickner et de Dominique Fortier avec ceux de Thuy et de La Ferrière, c'est que ces deux auteurs, ni leurs romans, ne sont considérés comme migrants par la critique. Pourtant, même si ces quatre romans sont très différents par leur intrigue, le ton, les lieux évoqués, etc., ils partagent néanmoins de nombreux traits liés au mouvement, à la dérive, au croisement, des termes habituellement liés à l'écriture migrante. Paru en 2007, Nikolski, de Nicolas Dickner, tisse trois récits très différents les uns aux autres, narrés par différents narrateurs dont les personnages sont liés et se croiseront sans le savoir qu'ils partagent des liens de parenté. Noah, le personnage central d'un des fils, grandit sur la route, traversant les prairies canadiennes en auto avec sa mère autochtone et leur roulotte. Et vraiment, Noah n'ira jamais à l'école, n'aura jamais de lieu fixe. Et toute sa jeunesse, son enfance, jusqu'à la fin de l'adolescente, il vivra dans une roulotte avec sa mère et il se déplace constamment à travers les provinces des prairies. Il apprendra à lire en lisant des cartes routières et son unique livre, le livre qu'il appelle le livre sans tête, parce qu'il n'avait pas de couverture. Ce livre, qui raconte des histoires de marins et dans lequel est reproduit une carte des Caraïbes, fournira l'univers qui fera contraste aux prairies de Noah. Je cite, « La carte de la Saskatchewan ressemblait à un négatif des Caraïbes. Pour chaque île, un lac et des océans de graminées en guise de mer. » Noah se fixera un certain temps à Montréal, où finalement il commencera à faire des études formelles à l'université pour la première fois de sa vie, avant de suivre son amoureuse et la mère de son fils jusqu'à l'île Margarita, au nord-est de la côte du Venezuela. Un deuxième fil relate l'histoire de Joyce, descendante de la famille Doucette, une famille acadienne qui aurait refusé d'être déportée, comptant parmi ses ancêtres des pirates. Joyce quittera l'univers étouffant de la Basse-Côte-Nord pour s'installer à Montréal, où elle deviendra poissonnière de jour et pirates de nuit, en quelque sorte en plongeant dans les vidanges industrielles de la ville pour y récupérer des ordinateurs qu'elle remettra en marche. Finalement, le troisième fil, le seul à être narré à la première personne par un narrateur sans nom, il évoquera le voyage par l'entremise des livres. Ce personnage ne ressentira pas particulièrement le désir de se déplacer très loin. Originaire de la banlieue montréalaise, il travaille dans une librairie d'occasion où il gagne peu ou mal sa vie, mais dont il semble en gros satisfait. Ce livre est traversé de paysages urbains, agricoles, ruraux, maritimes, imaginaires, de cartes géographiques et de cartes postales. Le continent est traversé d'est en ouest, de la basse côte nord aux îles aléoutiennes de l'Alaska, où se trouve justement le très petit village de Nikolski. Et Nikolski est un village qui existe vraiment et qui a, je crois, moins de 100 personnes qui y habitent. Et du nord au sud du Québec au Venezuela. C'est à travers tous ces fils, ces récits qui se croisent, qui sillonnent les territoires et les cultures, que ce soit au sein d'entités nationales qui sont le Canada ou le Québec, ou au-delà, à travers les Amériques, que ce roman se caractérise par la dérive et le mouvement. On en vient à notre dernier roman, « Les larmes de Saint-Laurent » de Dominique Fortier, roman paru en 2010. Donc vous voyez tous contemporains, les quatre, très contemporains. Encore une fois, comme dans Nikolski, il y a trois récits. Mais ceux-ci sont agencés de manière plus linéaire et chronologique, et les liens entre les trois ne sont pas mis en évidence avant les dernières pages du roman. Il faut donc le lire jusqu'au bout. Le premier récit commence en Martinique, nous menant à l'éruption du volcan Pelé en 1902, qui aurait tué tous les habitants de la ville de Saint-Pierre, sauf pour un prisonnier protégé par son caveau. Considéré comme un phénomène presque surnaturel, il est embauché par le cirque Barnum & Bailey et sillonnera les États-Unis, exposé devant les foules en compagnie des autres monstres et merveilles du cirque. Le deuxième récit se déroule en Angleterre et en Italie et suivra la vie d'Augustus Edward Love, un mathématicien qui a travaillé sur l'élasticité et sur les ondes Love, alors vraiment les ondes physiques, en anglais qui s'appelle Love Waves, que je trouve très beau comme expression, et qui épousera une musicienne qui aime coller son oreille au sol afin d'écouter la terre. Finalement, le troisième volet de ce roman nous mène à Montréal, où une jeune femme est promeneuse de chiens professionnelle, passant ses journées à se promener sur la montagne avec ses chiens, où elle fera la rencontre de son âme sœur, un jeune homme, lui aussi plutôt solitaire, qui est fasciné par les volcans. Je ne vais pas révéler le dernier paragraphe du roman, au cas où il y en a qui aimeraient le lire, mais à la fin, dans ce dernier paragraphe, on va découvrir comment les trois fils de ce texte se tissent ensemble. Parce que ce n'est pas évident jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Alors, ces textes, ces deux derniers, des textes migrants, pourquoi pas en effet, même s'il ne s'agit pas de l'immigration en soi. Il y a certes des effets d'une migrance symbolique, d'une migrance littéraire, mais il me semble que l'adjectif migrant est désormais trop lourdement connoté par l'empreinte du phénomène vécu de l'immigration d'un pays vers un autre. Je propose que l'on se penche plutôt sur une approche transculturelle ou peut-être plus adéquate en ce qui a trait aux quatre romans discutés aujourd'hui, une approche transnationale. Ces quatre romans sont certes publiés au Québec par des maisons d'édition québécoises. Ils sont recensés dans des publications québécoises. Ils sont ou seront sans doute enseignés dans des cours de littérature québécoise au Québec et ailleurs. Or, en ce qui concerne ces textes littéraires au niveau de leur forme et de leur contenu, ce sont des textes qui traversent les frontières, qui en font fi. L'imaginaire représenté dans ces romans n'admet aucun obstacle, et c'est là, en fait, l'apanage de la littérature. Une approche transnationale ne cherche pas nécessairement à démantibuler la nation. Elle la traverse, comme le veut le préfixe « trans », la contourne, parfois la remet en question ou la problématise. On pourrait même dire que le caractère transnational des quatre romans contribue à l'essor de la littérature québécoise. Cette approche permet au moins de lire ces quatre romans en parallèle, ce qui serait moins aisé si on se confinait au cadre de l'écriture migrante. Car si ces quatre romans ont en commun une écriture du mouvement et de la dérive, caractérisée par des croisements de tout genre, ils ne sont pas tous issus d'une expérience personnelle de l'exil ou de l'immigration. Il ne s'agit pas de nier que ce type d'expérience puisse avoir un impact sur l'écriture, mais plutôt de rappeler que le fait d'écrire sur un mode transnational ou encore transculturel ne relève pas du domaine exclusif d'écrivains qui ont immigré. En effet, c'est le privilège de l'écrivain tout court, peu importe son parcours personnel, de se laisser bercer par un imaginaire qui imprègne l'écriture de déplacement à travers l'espace et le temps, de langue et de culture, ce qui gomme, sur le plan de la pratique esthétique, la démarcation sous-jacente dans le terme « écriture migrante » au sein de la littérature du Québec. Je vous remercie de votre attention.